who really love you. Walk up and down outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. When they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Qu'est-ce que tu lis là? Elle lui dit.
Je le sais. Jules ne veut pas voir. Il veut et a décidé que sa femme, puisqu'il le faut, serait Marie et personne d'autre. Je forcerai à l'aimer. Ce sera pas difficile vu sa beauté.
Ils se voient souvent. Pour jouer au tennis, aller au café ou à un concert. Jules les voit la plupart du temps seuls. Il fait en sorte de ne pas trop regarder le frère et surtout de s'occuper de la jeune fille. À l'après-midi, il est venu chercher Marie chez elle et il a fait la connaissance du père, un grand homme mince, ses cheveux châtains, l'air aimable. Le père lui a demandé ce qu'il faisait. Jules lui a dit que pendant ses temps de loisirs, il écrivait et que certains de ses écrits avaient été édités. Le temps passe. Jules est de plus en plus excité et se voit marié avec Marie. Elle s'en clame. Un jour, Jules, en la raccompagnant, s'enhardit à lui prendre la main. Elle ne réagit pas. Lui est rouge d'émotion. À l'après-midi, sa mère au salon lui dit «
Tu fréquentes un peu trop cette jeune fille. Tu vas finir par la contremettre. Tu es à un âge où tu dois comprendre cela. Il s'agit de savoir ce que tu veux faire. Que comptes-tu faire de cette petite ?»
Jules est en âge et ému. Il voit que c'est le temps des décisions. Il lui répond
« Mère, je crois J'aime cette jeune fille et veux l'épouser.
Très bien, mon fils. C'est une personne charmante et issue d'une famille honorable. Si tu veux l'épouser, fais ta demande et parle-nous-en.
Bien, mère.
Il a rendez-vous avec Marie le lendemain pour aller à un concert. Bien sûr, le frère y sera. Malgré le frère, il est décidé de lui parler. Tout ému, il va chercher le frère et la sœur le soir chez eux. Et ils partent.
Durant le concert, où il est assis entre eux deux, il regarde Marie. Et a peur. Mais sa beauté l'éblouit. Et lui donne confiance à ce qu'il a décidé.
Après le concert, une fois dehors, il prend son courage à deux mains et lui dit
« Marie, j'aimerais vous parler. Je vous écoute, Jules. C'est-à-dire que c'est un peu... J'aimerais vous parler seul. »
Elle lui dit
« Bien. Alexandre, ça t'ennuie pas de nous laisser Jules à me parler. Rentre, Jules me raccompagnera. »
Jules lui dit « Je suis confus. »
Alexandre lui dit « Ce n'est rien, c'est normal. »
Et il s'éloigne.
Marie lui dit « Je vous écoute, Jules. »
Bien voilà. Ce n'est pas facile,
mais il le faut. Je veux vous dire, c'est que...
Marie...
Je vous aime.
Et...
veux vous épouser.
Elle lui demande « C'est une demande en mariage ?»
Oui,
elle lui dit. Je vous remercie et suis très flattée, mais je ne sais quoi répondre à votre demande. J'aimerais que vous attendiez un peu. Après, je vous donnerai ma réponse.
Et lui, il est déçu et lui dit.
Comme vous voudrez, Marie, j'attendrai.
Elle lui dit.
Vous comprenez, pour moi... Je ne sais pas si je ressens quelque chose pour vous.
Je vous trouve gentil.
Voilà tout.
Je comprends. Je vais vous raccompagner jusqu'à chez vous.
Et il la raccompagne.
Il est déçu.
Déçu.
Et se dit qu'elle ne l'aime pas. Je ne suis pas assez bien pour elle. Pas assez beau. Je fais trop sérieux.
Je vois très bien. Elle aime vivre.
Je ne suis pas le compagnon idéal qu'elle aimerait.
Arrivé devant son immeuble, il lui dit
« Je vous comprends. Je fais vieux, moche, pas drôle du tout, mais je vous promets que je changerai. »
Elle lui dit « C'est pas cela.
Et puis, je n'aimerais pas avoir un mari frivole. Je le veux sérieux. Je n'ai pas l'habitude des hommes, vous comprenez, à part mon frère. Je suis bien qu'avec lui. C'est normal, c'est mon miroir. »
Il lui dit, je vous comprends. Lorsque l'on a un frère comme lui, on trouve les autres hommes sans intérêt.
Il a votre beauté et votre gentillesse.
Moi, je ne suis pas comme vous. Je ne peux pas lui ressembler.
Elle lui dit, mais ne désespérez pas. J'ai pas donné ma réponse.
Et puis, on ne peut pas toujours vivre avec son frère.
Elle l'embrasse sous la joue.
« Merci pour votre demande. Cela m'a touché beaucoup.
Vous aurez une réponse bientôt. »
Et elle entre dans son immeuble. Jules s'en retourne troublé et triste. Les jours passent, il attend la réponse, il est inquiet, il se demande ce qu'il fera si elle le refuse. Je pourrais en aimer une autre. Et un jour, il reçoit une lettre de Marie qui lui donne rendez-vous au parc pour parler un peu. Il lui écrit qu'il accepte son rendez-vous. Et deux jours plus tard, il y va inquiet. Il va donner rendez-vous devant l'entrée principale. Elle porte une jolie robe bleu pâle. Jules la trouve très belle. Il va vers elle. Elle lui sourit. Bonjour Jules. Bonjour Marie. Elle lui dit. Merci d'être venu. J'espère que vous n'avez pas trop souffert de mon silence. Il a été assez triste, mais j'avais espoir d'une réponse. Vous êtes merveilleusement belle. Merci. Marchons, s'il vous plaît. Et ils entrent dans le parc. Choisissent l'allée de gauche, la plus calme, celle où il n'y a pas de vendeurs, d'animaux, à voir ou autre. Elle lui demande, « Vous avez réfléchi, vous aussi ?» Il lui dit, « Je reste dans mes positions, je vous aime. » Elle lui répond, « Je vous remercie, cela me touche beaucoup, mais je ne peux pas encore. Je ne sais pas. » En réalité, elle est malgré elle amoureuse de son frère et ne rêve pas d'un autre homme. Je lui dis, demandez-moi ce que vous voulez. Elle lui répond, je vous demande simplement un délai. D'ailleurs, mon père va vous mettre à l'épreuve. Il a décidé, c'est de me faire partir un mois ou deux en Bretagne chez une de mes tantes. Je lui est triste, mon Dieu, un mois ou deux, c'est trop. Mon père dit que si vous restez sur vos positions, il verra. Et votre frère part avec vous? Il ne sait pas pourquoi il pose cette question. Elle lui répond, non, mais il fera des visites. Mes parents savent que nous pouvons nous passer l'un l'autre. Il lui demande, et moi, je pourrais aller vous voir? Surtout pas, père serait furieux. Il veut faire une enquête sérieuse sur vous. Pourrais-je au moins vous écrire? Oui, bien sûr, père ne l'interdit pas. Moi aussi, je vous écrirai. Vous partez quand? À la fin de la semaine prochaine. Je vous attendrai. Puis, ils ont continué à marcher. Jules est très triste et voit que Marie ne l'est pas trop. Il lui demande, cela ne vous attriste pas de partir? Non? Non, j'aime la mer et ma tante est très bonne. Mais je penserai à vous, bien sûr. Elle est arrivée à l'autre bout du parc et lui dit de la raccompagner. Arrivé vers chez elle, il lui demande « Je pourrais vous dire au revoir ?»« Non, il faut nous dire au revoir ici. » Il est triste et se dit qu'elle est pressée de nous voir partir. Il lui demande « Bon, eh bien, au revoir et faites bon voyage. » Elle lui dit « Soyez pas triste, nous nous reverrons. » Elle l'embrasse sur la joue et elle entre dans son allée.
Oh,
Jules est triste et broie du noir. Marie est partie. Il décide de lui écrire toutes les semaines une longue lettre. Il lui écrit, assis à son bureau, dans sa chambre. Il lui écrit, et plus il écrit, plus il se passionne, plus son amour grandit, plus il le sublime. Il écrit, il n'arrête pas d'écrire, 10 pages sans s'arrêter. Au fur et à mesure qu'il écrit, son amour devient une passion, tellement forte qu'il en oublie l'objet. Ses phrases lyriques l'emportent dans des contrées du corps tellement lointaines qu'il s'y perd. Il ne sait plus ce qu'il écrit. C'est le plaisir d'écrire l'amour qui le guide. Elle lui répond qu'elle est de plus en plus troublée par ses lettres, des lettres qui la dépassent et sera jamais capable d'en faire autant. Comme vous devez m'aimer pour m'écrire de telles choses. Elle est humiliée, émerveillée, c'est plus fort pour elle, trop fort. C'est impossible de dire non à une personne qui m'aime comme vous m'aimez. Lui en est fier, s'enflamme, en rajoute. Elle a le vertige. Personne n'est capable de parler d'amour comme vous. Jamais je ne pourrai vous aimer comme vous m'aimez. Les jours passent et la passion les prend. Grâce à l'intermédiaire des lettres, à cause d'elle. Un jour, dans une de ses lettres, elle marque, en plus de son amour, qu'elle est triste, car son frère a fait une grosse bêtise. Il a emprunté de l'argent à père et l'a perdu. Père, pour le punir, l'a fait partir pour l'Amérique du Sud, un pays de sauvages où l'on tue facilement, où il y a encore des Indiens indigènes qui croient à la sorcellerie. J'ai très peur, et je suis inquiète à cause de mon frère. J'écris à mon père, en sa faveur, mais il n'a rien voulu entendre. Mon frère part à la fin juillet. Cette nouvelle attriste énormément Jules. Il se dit qu'il ne verra plus le beau garçon. Cela fait plus de mal que s'il n'avait été, ça avait été Marie qui ne le voulait plus. Pendant quelques jours, il n'a plus envie d'écrire à Marie et passe tout son temps à penser au beau garçon. Mais heureusement, elle lui écrit et elle lui envoie son portrait. Il est subjugué par le portrait. Il ne se rend pas compte qu'il est subjugué à cause de la ressemblance avec le frère et recommence à lui écrire des lettres folles. Ces lettres d'amour sont tellement folles que n'importe qui se dirait qu'il n'écrit pas des lettres à Marie, mais à l'amour, à son amour à lui. On pourrait penser que c'est des lettres d'un fou furieux. Mais Marie, qui est une jeune fille et ne connaît rien à l'amour, ne le voit pas. Lui non plus ne se rend pas compte du non-sens de ses écrits. Il croit décrire l'amour, mais il décrit la folie. Heureusement que Marie ne montre pas ses lettres à sa famille. Il prendrait peur. Le temps passe et deux amoureux s'écrivent toujours. Un Un jour, elle lui écrit, en plus de sa passion, car elle aussi veut écrire comme lui. Elle ne veut pas rester en reste. Et malgré elle, elle aussi croit en ce qu'elle écrit et s'imagine vivre un grand amour. Donc, dans une de ses lettres, elle lui dit avec joie que son père a fait une enquête sur lui et sa famille. Il est satisfait, surtout que Jules est un bon sujet, qui sera professeur d'histoire dans un plus grand lycée lyonnais et qu'en plus il a de l'avenir comme écrivain. Il a lu les livres et les trouve très beaux. Donc, il a fait la conquête du père et la mère suit. Il n'y a plus d'obstacle entre nous. Jules est fou de joie. Enfin, il a réussi. Il va avoir sa Marie. Il va de suite le dire à sa mère et savoir si la famille est d'accord. La mère lui dit
« Il faudra convaincre ton père. Elle n'est que la fille d'un professeur de lettres. »
Jules lui dit « Comme moi, mère. »
« Oui, mais toi, tu es issu d'une famille qui a des biens. »
Jules est triste. Il se dit qu'il va falloir convaincre son père. Sa mère le voit et lui dit
« Je parlerai en ta faveur, ou plutôt en la faveur de cette petite. »
« Merci, mère. » Deux semaines plus tard, Marie lui dit dans une de ses lettres qu'elle entre à Lyon. Son exil est terminé puisque son père est d'accord. Jules pourra bientôt présenter sa demande officielle à son père. Jules est fou de joie. Mais il appréhende. Lorsqu'il va voir Marie, pour de vrai, ne va-t-il pas causer un choc? Avoir un choc? Moins l'aimer? Sa Marie des lettres, enflammée, était une Marie idéale, loin. Là, elle sera prête et la verra vraiment. Serait-il capable d'autant lui prouver son amour près d'elle, comme il le faisait loin d'elle? Ne va-t-elle pas désenchantée de le voir moins exalté, moins amoureux? Serait-il capable de lui dire et de lui prouver qu'il est à la hauteur de ses lettres? Elle est de retour. Elle lui dit qu'il peut venir la voir le lendemain. Le premier jour est pour les parents. Le lendemain, très ému, il va sonner chez les parents.
La bonne. Bonjour, j'ai rendez-vous avec mademoiselle Marie.
Je suis Jules Beaumandin.
Entrez, monsieur.
Entrez. Il entre. Là, il attend anxieusement. La porte s'est ouverte. C'est elle.
En robe rose, le sourire aux lèvres, n'est pas déçu, elle est tout aussi jolie que dans ses pensées. Elle va vers lui, se met dans ses bras et ils s'embrassent. Que je suis heureux de te revoir, mon amour. Moi aussi, ma chérie. Elle lui dit, tes lettres ont été d'un grand réconfort et m'ont montré ton amour. J'aimerais aussi. Es-tu décidé à demander ma main à ton père? Il lui dit hésitant. Plus que jamais, je peux venir le voir demain après-midi, vers 15h. Je le préviendrai que je suis heureuse, moi aussi. Malheureusement, il s'aperçoit qu'il n'a rien à lui dire.
C'est plus facile de s'exprimer avec du papier loin de la personne. On peut s'imaginer des tas de choses. Mais une fois que l'on est devant elle, c'est pas pareil. Son physique gêne. Il lui dit, j'espère que nos fiançailles ne vont pas durer trop longtemps.
Je ne le pense pas. Tant mieux, parce que tu sais qu'à la rentrée, je commence à enseigner.
Oui. Je demanderai à mes parents de faire les choses vite.
Ils n'ont plus rien à se dire, parce qu'ils se sont tout dit par lettre.
Il lui demande, ton voyage s'est bien passé?
Oui.
Elle lui demande, tu veux prendre un thé?
Non, malheureusement, il faut que je rentre. J'ai à parler à mon père.
C'est pour nous deux. Il était en voyage, il n'a pas eu le temps de le faire.
Ils s'embrassent.
Il lui dit, n'oublie pas demain ton père.
Elle lui dit, oui.
Et il la quitte.
Une fois dehors, il souffle un peu et sur le chemin qu'il ramène chez ses parents, une fois seul, il peut enfin repenser à elle tranquillement. Arrivé chez ses parents, il va frapper à la porte du bureau de son père.
Son père est assis à son bureau.
Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux?
Je suis venu, c'est vous parler d'une chose importante.
Viens t'asseoir et parle.
Voilà, père. Je suis venu vous dire, c'est que j'aimerais me marier. J'ai rencontré une jeune fille, Marie-Chante Perdry. Ça fait plusieurs mois que nous nous fréquentons et nous avons décidé, c'est de nous marier. Elle est issue d'une famille très estimable. Le père est professeur de lettres au lycée du Parc. Constantin regarde bien son fils et lui dit,
je suis heureux que mes enfants décident enfin à vivre une vie normale. C'est bien, mon fils. Tu as un métier, peut-être pas très rémunérateur, mais enfin honnête. Et maintenant, tu veux fonder une famille. Je ne dis pas non. Je connais un peu cette famille Champerdry. Ce sont des gens bien. Si tu veux te marier, marie-toi. Tu as mes bénédictions.
Merci, père.
Non, c'est moi qui te remercie. Tu me rends heureux en voulant vivre comme tout le monde. Ce n'est pas comme ton frère et ta sœur.
Le lendemain, tout ému, Jules va faire sa demande au père de Marie. Tremblant, il va sonner à la porte des Champerdry.
J'ai rendez-vous avec monsieur Champerdry.
Bien, monsieur, veuillez me suivre.
Et elle le mène au bureau du père.
Elle entre. Elle ressort. Monsieur, vous pouvez rentrer. Il entre.
L'homme est assis à son bureau, Louis XV. Il semble grand, mince, le visage osseux, les cheveux et la moustache blanche.
Vous avez désiré de me voir, monsieur?
Oui, monsieur.
Asseyez-vous. Je vous écoute.
Voilà, monsieur, je suis venu vous demander la main de votre fille Marie.
Un silence de mort pèse dans la pièce. Puis le père dit,
oui, que ma fille veuille se marier, cela m'arrange. Son frère a fait des bêtises. Elle au moins sera casée. Lorsque j'ai appris
que vous fréquentiez, j'ai fait une enquête sur vous. Ne vous enfusquez pas. Tous les pères de famille le font. Ce que j'ai appris m'a plutôt été bonne. Vous êtes une personne sérieuse. J'ai lu aussi vos œuvres. Elles m'ont intéressé. C'est bien. Il faudra continuer. Ma femme et moi sommes d'accord pour que vous vous mariez. Je crois que vous désiriez vous marier le plus vite possible à cause de votre travail. Si votre famille est d'accord, nous officialiserons les fiançailles dans la semaine et demanderons à publier les bans dans un mois et demi. Vous direz que je veux à votre père que je veux le voir. Dites-lui de me dire quand il souhaite me recevoir. Voilà. Je l'ai surpris, s'attendait à plus de complications. Cela s'est fait rapidement et bien. Je vous remercie, monsieur. Maintenant, parlez-moi de ce que vous êtes en train d'écrire.
Pour le moment, rien.
Oh, oui, bien sûr. Vous avez tellement écrit à ma fille. Et lorsque l'on est amoureux. Bon, eh bien, je vais vous laisser voir ma fille. Vous pouvez lui dire ce que j'ai décidé.
Merci, monsieur. Et le père se lève.
Jules aussi, et le suit, et sortent du bureau.
Trois jours plus tard, les deux pères se rencontrent dans le bureau des Beaumandin. Monsieur Chanteperdry offre une petite rente à sa fille et une petite maison de campagne dans le Midi. Monsieur Beaumandin offre à son fils la maison qu'il habite car il a décidé d'habiter un petit village entre Lyon et Grenoble.
Je vais me retirer de mes affaires. Mon fils s'en occupera. Et puis, j'offre encore une rente annuelle à mon fils.
Les deux pères sont d'accord. Pour ce qui est du mariage, dans un mois et demi aussi. Surtout qu'il y aura le voyage de noces. C'est M. Beaumandin qui offre un voyage en Grèce aux mariés.
Tout est prêt. La machine est mise en route et Jules n'a plus le temps de réfléchir.
D'abord, le bal, pour présenter les fiancés. La mère s'en est chargée. Un bal luxueux, de 300 personnes, que des intimes.
Ému. Prépare plusieurs jours et revoit Marie dans une magnifique robe blanche et argent. Et après quelques pas de danse, c'est Apolline qui lui a appris. Et il sait mieux se débrouiller. Puis, après le bal, il y a eu les félicitations pour le mariage.
Préparer le mariage. Marie n'est plus visible. Elle prépare son trousseau avec sa mère. Jules, parce qu'il ne le voit pas, se remet à idéaliser. Malheureusement, la nuit, il rêve que vient se juxtaposer le visage de son frère sur le sien, et même quelquefois son corps.
malgré lui, est toujours attiré par le frère.
Charles-André reste à l'écart de tout ça. Il trouve tout ça ridicule.
La police se demande si Jules ne fait pas une bêtise,
car elle sent que son fils, son frère, est attiré par le frère de Marie. Elle se dit que cela finira mal.
Comme d'habitude, de toute façon, nous sommes maudits.
Jules est pris dans un tourbillon. Il doit faire un tas de choses. Son tailleur, son trousseau, prévenir le lycée, les billets pour le train, le bateau, l'itinéraire, ouvrir un compte en banque, aller chez le notaire pour la donation de la maison, les préparatifs du mariage, invitation, aider sa mère à préparer, etc., etc. N'a plus le temps à penser à lui ni à Marie. Enfin, le jour arrive comme une espèce de délivrance. Le mariage à la mairie a eu lieu la veille sans plus de formalité. Jules a eu comme témoin des amis du père. Comme il n'a pas d'amis, Sylvain est loin. Mariage religieux, enfin.
Mariage religieux a lieu. Pour Jules, c'est un immense cortège dont il est un des membres officiels. Des foules, l'orgue, le décor, les fleurs, un prêtre, etc., etc. Il voit à peine la mariée sous son voile bois et sa robe. Tout ça lui donne le vertige. Tout à l'heure, il va falloir sortir de l'église, jeter des pièces d'or et d'argent.
Ensuite, il y a le repas, et après le repas, le bal.
Mené d'un endroit à l'autre, d'une personne à une autre, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Sa femme, et oui, il a une femme, mais il ne l'aperçoit pas. Il ne peut pas s'y faire, puisqu'on les sépare constamment. Un mariage, c'est épouvantable et c'est con. Ça devrait être simple et sérieux. Pourquoi créer un semblant de joie alors que les protagonistes et les parents sont émus? Pourquoi faire semblant de s'amuser? Dans certains endroits, c'est triste
on s'ennuie. Et c'est grossier. Un mariage, c'est où tout le monde s'ennuie. S'efforce d'être joyeux, de vouloir rire. Alors, pour s'aider, l'on boit beaucoup. Cela aide à faire des bêtises qui font rire les autres. Le mariage de Jules n'est pas vulgaire. La joie est contenue, mais il est tout autant ennuyeux. Il est fatigant. À 23 heures, la mère va vers lui et lui dit « Il est l'heure que vous partiez. Les bagages sont dans le fiacre. Emmène ta femme. Ne dis au revoir à personne. » Jules ému est soulagé de quitter tout ça, mais il a peur d'être seul avec Marie. Il embrasse sa mère. Va vite, mon fils. Jules va rejoindre Marie. Il vous faut partir. Elle le suit et il quitte le bal. Une fois dans le fiacre, épuisée, Marie s'est endormie.
J'ai cru que vous ne viendriez pas.
Une demi-heure plus tard, Jules l'a réveillé. Se serait arrêté à une auberge pour changer de vêtements et dormir jusqu'au lendemain. Épuisés, tous deux dorment chacun dans leur chambre. Le lendemain matin, un domestique est réveillé pour qu'il puisse préparer au départ. Après un petit déjeuner, ils sont partis. Dans le fiacre, la main dans la main, tous deux regardent le paysage, une fin d'été tout en couleurs. Marie est heureuse, elle a son Jules et son bonheur la rend muette. Lui, Jules, a des difficultés à se dire qu'il a une femme, que sa femme c'est Marie. Lui, Jules marié, le Jules qui a aimé Sylvain, qui aime Alexandre, marié, se jure d'être un bon mari. Marie ne doit pas souffrir à
cause de lui. Elle est pure. C'est moi qui ai voulu. Et qui ai voulu qu'elle l'aime. Qu'elle m'aime. Donc, je dois la rendre heureuse. Le voyage se passe bien. Jules est prévenant avec elle, essaie de la distraire en lui parlant de choses et d'autres. Malheureusement, c'est tout juste s'il ose l'embrasser. Cela est la preuve qu'il ne l'aime pas vraiment. Après un voyage de plusieurs jours, ils sont allés jusqu'à Marseille en train et fiacre. Jules n'a pas voulu tout faire directement en train car il voulait montrer certaines choses et avait un itinéraire. Durant tout le voyage, ils sont restés chastes à cause de la fatigue et de l'émotion. À Marseille, ils ont pris un bateau pour la Grèce, Athènes et tout, et ont décidé de prendre quelques jours de repos dans une petite ville portuaire. On louait une petite maison au bord de la mer. Là, ils seront seuls et pourront commencer leur vie de couple. Après la joie et la découverte des lieux, c'est une petite ville portuaire, pas très riche, faite de maisons blanches d'un étage avec son église, sa place, sa fontaine, son café. La maison qu'on leur a louée est une petite maison de pêcheurs toute simple, trois pièces. La salle commune, la chambre et la cuisine, meublée très simplement. Là, Jules, lorsqu'il s'est retrouvé seul avec Marie, il s'est dit que sa vie était changée, qu'il ne sera plus jamais, que ce ne sera plus jamais comme avant. Il ne sera plus jamais seul. Comment vivre intimement avec une personne? Voilà le problème de Jules. Pour Marie, la chose est simple. Elle a un mari, donc elle doit se comporter comme une femme, c'est-à-dire comme une maîtresse de maison. Son éducation le lui a préparé. Heureusement, il y a les choses à faire en commun, le repas, etc. Et cela arrange bien les choses. Et puis, ils vont souvent se promener. Chacun respecte l'autre, le silence de l'autre. Il y a aussi le problème de dormir ensemble. Jules se sent obligé de faire, car pour lui, c'est bien son devoir conjugal. Il faut avouer qu'il n'y arrive pas. À part les caresses, le reste ne vient pas. Marie, qui est vierge, ne l'aide pas. Mais comprend, une nuit, il lui dit « Pardonne-moi, je ne peux pas ». Elle lui dit « C'est l'émotion. Nous avons le temps. Laissons les choses aller. Je t'aime. Cela me suffit. Et tu me le prouves d'une autre façon. Finissons nos vacances sans chercher et oublions tout. Soyons nous-mêmes. Tu m'aimes, je le sais. Moi aussi, je t'aime. » Les jours passent. Et Jules est plus entendu parce qu'il ne cherche pas à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Ce qui fait
parce qu'il ne se sent pas d'obligation envers l'autre. Dans la liberté et sans se forcer, Jules devient plus tendre. Se met même à aimer, caresser Marie, parce qu'il ne se sent pas obligé de le faire et que cela vient tout naturellement. La tendresse s'approfondit et devient plus intime. Ils se mettent à marcher main dans la main, l'un contre l'autre, et à se parler doucement, ou à rester assis des heures enlacés. Allez voir, ils font vraiment amoureux. Marie est heureuse d'avoir un petit mari aussi gentil et qui est timide pour les choses, car elle aurait eu peur d'avoir un mari trop entreprenant. Lui au moins, il est tout en douceur et ne la prend pas pour un objet de désir. Sa mère lui a expliqué ce que c'était que le devoir conjugal. Elle se dit qu'elle a de la chance d'avoir un mari si tendre. Le voyage de noces se continue. Très bien. Il faut malheureusement revenir et retrouver la vraie vie. Il s'en retourne, elle vierge comme au premier jour. Lui a appris à apprécier sa femme douce et tendre. Mais quelquefois il a du remords et se demande pourquoi il ne peut pas avec Marie, alors qu'il l'a déjà faite avec sa sœur. Une femme, c'est une femme, mon Dieu! Alors pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé en moi? Ce qui a changé, c'est que malgré sa bisexualité, son corps a choisi. Mais de cela, il ne le sait, car à son époque, ce genre de choses ne se sait. Le voyage du retour se fait malgré tout très tendrement. Arrivé à Lyon, le père de Jules lui donne la maison de Lyon. Charles-André et Apolline auront un appartement chacun dans le centre-ville et les parents partent à la campagne. Jules et Marie gardent les domestiques du père et la vie commence pour eux. Jules commence ses cours au lycée. Au début, ça a été assez dur car les élèves ont commencé leur année scolaire avec un professeur remplaçant pendant que Jules était en voyage de noces. Durant ses cours, Jules reste neutre, froid avec ses élèves. Il n'ose pas les regarder. Il a peur de... Il y a peu de différence entre lui et ses élèves et certains visages lui sont sensibles. Petit à petit, les élèves s'habituent à lui et le trouvent gentil. Pendant que Jules est au lycée, Marie s'occupe de la maison. Elle l'aménage à sa façon, la modernise un peu, tout en lui laissant un côté vieillot. Elle va voir ses parents et visite quelques amis d'enfance. Avec elle, elle joue à la maîtresse de maison. Mais cela ne suffit pas pour occuper une jeune femme. Alors elle décide de devenir la secrétaire de son mari pour ses écrits et les leçons qu'il prépare. Jules est content de cette proposition, surtout que j'ai une écriture infecte. Et c'est difficile à me relire. Petit à petit, la vie se met donc en place. Une fois de temps en temps, il reçoit Charles-André et Apolline. Une fois que ses cours sont rodés, Jules essaye de se remettre à écrire. Le temps passe. Et au fil du temps, Jules s'aperçoit que son ménage n'est pas vraiment un mariage, ou plutôt une union. Il aime bien sa femme, mais ne la désire pas. Il n'arrive pas à faire son désir conjugal. Il se dit que pourtant Marie est belle, très belle, qu'elle ressemble à son frère. Mais non, ça ne marche pas. Il se demande ce que doit penser Marie de son manque d'entrain. Elle ne dit jamais rien, Marie, et si douce. Le temps passe.
Jules, ses nouvelles et petits romans qu'il écrit ont un certain succès et on lui demande de faire des conférences sur son univers littéraire. Il accepte avec joie et sa femme en est très fière.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 38e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La CVRP, Cinéma Vidéo Radio Production, vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.